Merci Claire, bonsoir à tous. Effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de ce lundi 3 mars, nous parlons des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, des éliminatoires des barrages du prochain CHAN, du nouveau sélectionneur de la République centrafricaine Rigobert Song qui a signé son contrat aujourd'hui et du Maroc qui accueille 12 matchs des éliminatoires du Mondial 2026, ce qui soulève du même coup la question des sélections nationales sans stade. Pour décrypter tout cela, comme d'habitude, nous retrouvons Élisée Mpatin depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue au Bénin.
Merci. Jules Valentin Ngoué nous rejoint depuis Douala au Cameroun. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Si à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. La CAN féminine 2026 pour commencer. Les matchs retour du premier tour des éliminatoires ont été bouclés. Des équipes ont passé haut les mains le premier tour. C'est le cas de la Gambie, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, l'Angola, la Namibie et l'Égypte. Et pour ce qui est du deuxième tour des qualifications qui va se jouer du 20 au 28 octobre 2025, des équipes comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, la Zambie et la Côte d'Ivoire, des champions régionaux donc habitués à des grandes compétitions continentales, feront leur entrée dans la compétition. On aura comme match Angola, Malawi, RDC, Afrique du Sud, Tanzanie, Éthiopie. La Namibie affronte la Zambie, le Burkina Faso fait face au Togo, l'Algérie affronte le Cameroun, Égypte, Ghana à suivre également, Kenya, Gambie, Bénin, Nigeria, Cap-Vert, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Élisée, je commence par Burkina Faso, Togo, des retrouvailles entre voisins.
Évidemment, et depuis un certain moment, eh bien, je pourrais dire que c'est le même niveau, même si les Togolaises ont un cran un peu au-dessus et des Burkinabés, ça s'annonce très, très, très compliqué, hein, puisque déjà, lors de la dernière Ligue africaine des champions, les préliminaires, on a vu les matchs entre les clubs togolais et les clubs burkinabés, comment ça s'est soldé. Une fois encore, ça concerne la sélection nationale, c'est un derby entre deux pays frères, vous imaginez un grand derby ouest-africain en attendant de suivre aussi un certain Nigeria-Bénin. En tout cas, la bonne nouvelle est que le football féminin a commencé par progresser dans la sous-région puisque c'est vrai que le Nigeria était le pays qui a plus remporté la compétition. Il avait une avance énorme sur les autres sélections, mais depuis un certain moment, l'Afrique australe a commencé par montrer de la qualité dans cette discipline depuis un bon moment. Donc le Maroc a rejoint un peu cette zone-là, mais depuis un certain moment, l'Afrique de l'Ouest a compris, le Ghana qui était au sommet a chuté complètement et cette zone de l'Afrique a commencé maintenant par bien pratiquer ce football-là, vivement et que cette zone soit bien représentée à la phase finale.
On reviendra justement sur ce derby ouest-africain, Élisée, vous le mentionnez, mais en attendant, Jules, Algérie, Cameroun, c'est quand même deux sélections assez confortables dans cette discipline de football féminin qui s'affrontent.
Deux équipes qui, à l'heure actuelle, vont sûrement nous présenter du bon football. Il faut dire que l'Algérie est dans sa phase ascendante. En Afrique du Nord, le modèle absolu, c'est le Maroc. Et l'Égypte et l'Algérie se sont mis derrière la Tunisie, parce que la Tunisie a suivi l'exemple du Maroc, et derrière la Tunisie pour essayer de rattraper leur retard. Et ce sont des équipes qui ont les mêmes qualités. L'Algérie a toujours ses qualités sud-américaines qu'on lui connaît, le jeu collectif, technique, bien léché. Mais seulement, en face, il y a le Cameroun qui est habitué justement à poser des problèmes sérieux aux équipes sud-américaines, comme on l'a vu à la dernière compétition des jeunes. Donc je crois que nous aurons là une belle opposition de style, mais pour le moment, sur le papier, c'est le Cameroun qui part favori.
Bien évidemment, sur le papier, le Cameroun part favori. On verra également dans ce match très attendu un autre derby ouest-africain entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, Amdine Sy.
Oui, le Sénégal qui s'est qualifié pour le premier, pour le deuxième tour, sans pourtant jouer, puisque les Lions devaient rencontrer le Tchad qui a déclaré finalement forfait. Donc les Lions n'ont pas pu effectuer le déplacement sur Abidjan pour jouer contre le Tchad, mais elles seront bel et bien à Abidjan cette fois-ci. C'est pour rencontrer une grosse flèndre qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était exemptée pour ce premier tour, comme vous le savez. Les ténors vont entrer en lice lors de ce deuxième tour et la Côte d'Ivoire fait partie de ces ténors. Donc le Sénégal aura fort à faire parce qu'en face, il y aura une excellente équipe de la Côte d'Ivoire. Mais comme le Sénégal avait réussi à se qualifier lors de la dernière édition, l'objectif et l'ambition est de sortir la Côte d'Ivoire pour pouvoir discuter cette Coupe d'Afrique des Nations, Yacouba.
Bien évidemment, Élisée, vous l'évoquiez tout à l'heure. Je reviens à vous pour parler, bien sûr, de Bénin-Nigeria. Tu le disais, le Nigeria est une grande nation, bien sûr, de foot féminin. Et donc, c'est dire que les Béninoises auront fort à faire.
Très fort. À faire, si je peux m'exprimer ainsi, ça s'annonce très compliqué pour les Béninoises. En tout cas, l'objectif est déjà atteint, c'est de passer d'abord cette première étape avant de se pencher sur ce derby contre le voisin de l'Est. Vous imaginez, c'est un match très attendu ici depuis que le Bénin a commencé par reformer son football féminin. P.O. Théou, qui a été remplacé par Abdoulaye Ouzerou, celui-là même qui était un ancien international béninois. Son papa également fut international béninois et avait déjà gardé la sélection féminine béninoise éliminée il y a de cela quelques années par le Nigeria. Dès aujourd'hui, Ouzerou Abdoulaye a un travail à faire. C'est bien sûr passer l'étape nigériane et enfin qualifier le Bénin pour sa première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'annonce très compliqué, mais avouons-le, depuis un certain moment, le Nigeria, en tout cas le Nigeria, ne présente plus tellement de dangers comme on le connaissait avant. C'est vrai que le football demeure le football et l'expérience reste toujours là. Donc, en tout cas, on aura un très bon match entre ces deux pays-là. Le Bénin qui a commencé par valoriser son football féminin, en témoigne aussi les cadets qui vont affronter en fin de cette semaine la RDC pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le plus important, c'est déjà de passer cette première étape. On espère créer la sensation sur la pelouse et éliminer le Nigeria.
Bien évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, ces 11 rencontres du deuxième tour, donc je vais dire les vainqueurs de cette double confrontation dans ces 11 matchs vont se qualifier pour la phase finale de la CAN prévue au Maroc. Je le rappelle, le Maroc bien sûr qui accueille cette phase finale de la CAN féminine pour la troisième fois consécutive. Amine Birouk, le pays hôte, se prépare également.
Le pays hôte affronté Haïti cette semaine, match nul 1-0 après avoir vaincu le Ghana 1-0. Haïti qui est mieux classé que le Maroc et que le Ghana, que les Lions de l'Atlas avaient affronté. Une équipe qui a posé beaucoup de difficultés aux Lions de l'Atlas et qui ont dû s'en sortir après avoir été menés au score sur un coup franc de leur capitaine Rizien Chibek. Mais c'est un bon test pour l'équipe du Maroc qui va devoir maintenant compiler des rencontres avec beaucoup d'intensité physique, beaucoup de duels, parce que le profil des adversaires lors de la CAN 2025, la deuxième consécutive, notamment lors du premier tour, c'est de fortes oppositions avec la Zambie, la RDC, le Sénégal, des gabarits, de la masse physique, et évidemment, il va falloir s'habituer à ce genre de duels, ce genre de confrontations. Prochain rassemblement au mois de mai, et puis ce sera la ligne droite vers la CAN qui aura lieu sur les terres du Royaume chérifien.
Parlons à présent du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, dont la première manche de la deuxième phase de qualification s'est achevée hier dimanche. Élisée, le Malawi a pris une belle option sur la qualification en surprenant les Comoriens avec une victoire décisive à l'extérieur qui plus est 2-0.
La grande sensation, et les Malawites ont fait preuve de réalisme pour pouvoir quand même remporter cette affiche contre les Comores 2-0, ce qui le met quand même en bonne position en attendant le match retour prévu en fin de cette semaine. Et les Malawites quand même ont la chance, puisque en cas de qualification, vont affronter quand même le vainqueur du match entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui n'a pas du tout souri aux Sud-Africains. Mais en tout cas,
d'abord, il faut essayer de négocier sa qualification, d'assurer cette victoire du match aller, en attendant de connaître son adversaire pour pouvoir jouer à fond cette qualification pour le championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu dans 3 pays en août prochain.
Bien évidemment, Ouganda, Tanzanie et Kenya. Amin Birouk, Élisée le disait tout à l'heure, en déplacement bien sûr, disons, l'Afrique du Sud qui accueille l'Égypte s'est contentée du match nul, 1-0. Avantage aux pharaons locaux.
Avantage aux pharaons locaux, d'autant plus que la règle du but marqué à l'extérieur demeure en vigueur sur notre continent, contrairement à l'Europe par exemple. Et c'est une séance de rattrapage pour les deux pays qui s'étaient pas inscrits pour la compétition et qui ont finalement été quémandés, suppliés par la CAF pour pouvoir rejoindre le statut d'équipe en lice pour la qualification. Une compétition à 19, très bizarre. Mais ce qui est important, c'est que l'Égypte, qui a longtemps snobé le CHAN, est en masse peut-être de franchir ce premier cap et de postuler pour une première qualification historique. Il faut dire que l'Égypte, pays fondateur de la Confédération africaine de football, recordman des victoires en Coupe d'Afrique des Nations, avait longtemps estimé que cette compétition gênait sa compétition domestique et qu'il avait largement le niveau pour éviter de la disputer. Aujourd'hui, l'équipe d'Égypte va se déplacer certainement avec les meilleurs joueurs du championnat égyptien, moins ceux d'El Ahly, face à une équipe sud-africaine qui est peut-être plus dangereuse à l'extérieur qu'à domicile.
Bien évidemment, on le saura bientôt. Jules, après moult tergiversations, le Gabon s'est finalement déplacé à Thiès au Sénégal pour affronter la Gambie, 0-0 à la clé. Alors, vous allez nous parler d'abord de ce qui s'est passé dans l'avant-match. Bien sûr, de source gabonaise, eh bien, c'était pas donné pour l'équipe nationale A' de se rendre à Thiès au Sénégal pour disputer cette rencontre face à la Gambie.
Oui, bien sûr, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, comme pour tout ce qui concerne la question du développement, les transports sont impactés et aussi toutes les formalités qu'il faut remplir pour se déplacer d'un petit coin à l'autre. Donc, finalement, c'était pas aisé, mais l'équipe s'est finalement déplacée et a pu faire son match. Et le score que cette équipe a ramené de 0-0 la positionne pour qu'elle puisse, en quelque sorte, avoir toutes ses chances pour la qualification au tour suivant. Bon, alors, les Gabonais vont sûrement jouer leur chance à fond, dans la mesure où les matchs récents qu'ils ont eus dans les diverses compétitions, que ce soit chez les jeunes ou chez les femmes, n'ont souvent pas tourné à leur avantage. Je crois qu'une fenêtre leur est ouverte pour qu'ils montrent que le football gabonais existe toujours et qu'il se défend.
Bien évidemment, le football gabonais existe toujours et il se défend. Ce sont les mots de Jules Valentin Ngoué. Je vais rappeler que les matchs retour se jouent le week-end à venir. Le CHAN aura lieu en août prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Si vous venez de nous prendre un match, eh bien, ne bougez pas. Vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. Nous revenons dans quelques secondes. La République centrafricaine, Rigobert Song, a signé son contrat avec le ministère en charge des sports malgré le refus de la Fédération centrafricaine de football. Ce contrat confirme ainsi Song au poste de sélectionneur national des Fauves du Bazoubangui. Amine, le moins qu'on puisse dire, c'est un scénario à la camerounaise.
C'est une vraie tragicomédie à la camerounaise. Aujourd'hui, nous avons deux parties, le ministère de tutelle qui a décidé de s'entêter à faire signer Rigobert Song et la fédération qui refuse de céder et qui ratifie, éloge Yabi Sinza comme entraîneur, comme sélectionneur national. Aujourd'hui, il y a eu cette cérémonie grandeur nature avec une signature de contrat de la part du Rigobert Song en présence du ministre de tutelle. Et la question qui se pose, où commence l'ingérence gouvernementale, où s'arrête-t-elle? Est-ce que la FIFA, à la lumière peut-être d'une plainte de la Fédération centrafricaine de football, ne va pas vouloir fourrer son nez dans les affaires du football centrafricain, quitte à disqualifier la Centrafrique? Je rappelle que la Centrafrique est qualifiée pour la CAN 17, qu'elle est en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et qu'elle sera en lice prochainement pour les éliminatoires de la CAN 2027. C'est une question importante, puisque dans ce même cas d'espèce, on a eu différents traitements à géométrie variable. On a vu le traitement à la camerounaise, où finalement on arrive à une sorte de modus vivendi entre la fédération présidée par Samuel Eto'o et le ministère de tutelle. Et aujourd'hui, nous voyons que du côté de la République centrafricaine, la fédération n'est pas du tout au courant et qu'elle s'estime en mesure de défendre son bon droit en maintenant le sélectionneur qu'elle a choisi.
Alors, Jules, justement, que peut faire la Fédération centrafricaine de football qui dit n'avoir pas été associée au choix de Rigobert Song?
Oui, mais il y a d'abord l'argument que celui que la Fédération propose est un entraîneur local. Alors, il faut le retenir. Et puis, il y a le fait également que le syndrome de l'affaire camerounaise, de tout ce qui s'est passé pendant la CAN ivoirienne, et avant ou après, et continue à suivre l'ombre de son. Mais seulement, et honnêtement, et si on regarde le contrat qui est proposé à son, qui est de 4 millions et demi par mois, et comparé à celui qui est proposé à l'autre sentinelle de la défense, Aliou Cissé, et que le Sénégal a relativement remercié, et qui va recevoir 49 millions et 4 en Libye. Bon, mais ça, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que Song, en fait, a besoin de rebondir à l'international, mais ce n'est pas tellement le contrat en tant que tel et sur le plan lucratif qui l'intéresse. Et si on se penche sur le côté sportif, on dirait que la carte de visite de Song n'est pas si mauvaise que cela. Il a qualifié le Cameroun de la Coupe du Monde. Il a ramené 4 points d'un groupe qui était difficile avec le premier du haut classement mondial qui était le Brésil à ce moment, la Serbie, la Suisse qui étaient quart de finaliste de l'Euro. Bon, et donc, il est revenu avec cela. Et pendant la CAN ivoirienne, son équipe a été complètement décimée par les blessures. Mais il s'est fait éliminer en 8e de finale comme Aliou Cissé. Donc, je crois qu'il y a plus de dramaturgie autour de cette histoire que la facette sportive. Il faudra seulement que les deux parties s'entendent et que le sport reprenne ses droits comme au Cameroun, comme l'a dit Amine tout à l'heure.
Alors, justement, Élisée, parlons de l'aspect sportif. Rigobert Song a la mission de qualifier la République centrafricaine pour la CAN 2027. Est-ce possible? On va se baser sur l'état de forme actuel des Fauves du Bazoubangui.
Les Fauves de Bazoubangui, quand même, on présente un effectif qui peut faire l'affaire. Et c'est vrai que pendant tout le temps, c'est Eloge Hamza Yamissi qui les a gardés, puisque ce problème va un peu toucher le vestiaire. N'oublions pas, parce que il y a déjà les cadres qui sont là, notamment le défenseur ou le milieu terrain de l'Olympique de Marseille. Quelle sera la réaction de ces cadres-là? Donc, c'est quand même un problème qui se pose. Aujourd'hui, quand on sait que la Centrafrique n'arrive pas à payer les précédents sélectionneurs étrangers qu'elle avait engagés, notamment à Kossi et Raoul Savoie, vous imaginez, est-ce que ce problème ne va pas encore mettre en difficulté Rigobert Song? Sinon, quand on prend le jeu, la Centrafrique a une très bonne sélection. On les a d'ailleurs vus lors de la dernière qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, où elle a posé énormément de problèmes à la sélection ghanéenne. En tout cas, Rigobert Song a tellement de problèmes à régler. D'abord, prendre l'effectif à son compte, parler beaucoup à ces cadres-là pour pouvoir former une équipe très soudée, puisque c'est de ça il s'agit. Il faut être vraiment soudé, ne pas s'intéresser aux problèmes entre la fédération et le ministère, ne penser qu'au football, et là, ça peut aller. Mais attention, quand ces problèmes se posent là, on ne s'en sort pas souvent.
Justement, ne s'intéresser qu'au football, c'est ce qui est difficile à faire. Alors, Amdine Sy, d'aucuns avancent que ce sont les États qui payent le plus souvent les salaires des sélectionneurs sur le continent et par conséquent qu'ils ont le droit de choisir le sélectionneur national, sinon de participer à son choix. Quel est votre avis tranché là-dessus?
Je pense que Amine l'a brossé, hein, il faut que la FIFA règle le problème de l'ingérence. En fait, qu'est-ce que c'est que l'ingérence? On ne sait pas, puisque lorsqu'il s'agit de choisir un entraîneur, la tutelle peut vraiment prendre un avis comme ça, comme ce qui se passe au Cameroun et ce qui vient de se passer ici au niveau de la République centrafricaine. Mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que c'est à la fédération, c'est aux fédérations de choisir les entraîneurs avec l'aval quand même de la tutelle qui paye. Parce que je vous donne l'exemple du Sénégal. Les fédéraux, les dirigeants de la fédération sénégalaise de football ont été tellement sages C'est pourquoi il n'y a pas eu de conflit, parce que eux, ils voulaient que Aliou Cissé reste, et c'est la tutelle qui a décidé de ne pas relever le contrat de Aliou Cissé. Et par gentillesse, ils ont laissé passer. Mais ce qui se passe au Cameroun et en Centrafrique pouvait se passer au Sénégal. Bref, je voulais dire que pourquoi, quand les gérants arrangent la FIFA, on laisse passer. Puisqu'on vient d'apprendre que Maître Augustin Senghor a été obligé de retirer sa candidature au niveau de la présidence de la CAF par le président de la République, Macky Sall. C'est pas une ingérence.
On y reviendra sans doute dans les prochains numéros d'Esporama, Amine.
Mais Amdine, il faut qu'on règle le problème d'ingérence.
Alors, justement, Amdine, si je reste avec vous, vous allez confirmer peut-être ou infirmer. Aliou Cissé annoncé en Libye, qu'est-ce que vous en savez? Très rapidement.
Oui, on dit qu'il a signé. On a même sorti les termes de son contrat, comme le doyen vient de le dire. Mais moi, j'attends toujours, parce que Aliou Cissé, d'habitude, il est présent sur les réseaux sociaux. Il n'a pas encore fait d'annonce. Mais je pense qu'on peut confirmer l'information qu'Aliou Cissé, surtout que lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque Aliou Cissé s'est déplacé au Maroc, il s'est déplacé avec son conseil, un avocat très réputé qu'on connaît, un homme du droit, professeur Sarro. Il était là-bas avec lui. Il paraît que les discussions se sont passées là-bas. Mais je dis que je pense que c'est déjà acté, Yacouba.
On en saura beaucoup plus, bien sûr, dans les heures ou les jours à venir. En attendant, parlons de la prochaine fenêtre FIFA de ce mois, bien sûr, de mars, où les sélections africaines jouent les matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Le Maroc accueille 12 rencontres éliminatoires. Alors, Amine Birouk, dites-nous quelles sont les quelques sélections, bien sûr, concernées et pourquoi le Maroc, selon vous, alors qu'il y a d'autres stades homologués sur le continent?
Tout d'abord parce que le Maroc est une destination qui est très proche de l'Europe, donc possibilité et facilité pour pouvoir rassembler les joueurs qui viennent du vieux continent. Casablanca est un hub africain, donc c'est une escale obligée vers l'Europe. Et puis, il y a la convention qui a été signée par la Fédération marocaine de football avec de multiples fédérations africaines dans le cadre de la coopération. Ces sélections disposent de terrains d'entraînement gratuits, d'un hébergement à des prix modérés, et donc ce sont des facilités qui attirent des pays qui n'ont pas pu homologuer leur terrain. Du coup, un Éthiopie-Égypte aura lieu à Casablanca, donc l'Éthiopie pourra recevoir chez elle au Maroc. Le Burundi va avoir disputé deux rencontres au Maroc, la Centrafrique aussi. Le Mali se déplacera deux fois au Maroc, jouera deux matchs à l'extérieur au Maroc. Le Ghana jouera au Maroc. Donc ce sont toutes des sélections qui vont être reçues par plus petits qu'elles, comme Madagascar par exemple, comme la Centrafrique, et qui auront la possibilité d'être très proches au niveau des stars. Les stars seront très proches de l'Europe, comme Mohamed Salah, comme Marmouche, comme les joueurs ivoiriens, comme les joueurs maliens. Donc c'est du gagnant-gagnant. Maintenant, la question qui se pose, la CAF avait voulu, et Patrice Motsepe avait voulu faire de l'homologation et de la réhabilitation des terrains en Afrique son cheval de bataille pendant son premier mandat. On parlait même d'un plan Marshall pour les stades. Quid de cette alternative, puisque la moitié des sélections du continent ne jouent pas chez elles, y compris le Burkina Faso, cher au cœur de notre ami Yacouba Ouedraogo.
Bien évidemment, Amine Birouk, ça m'incitera peut-être à me déplacer, bien sûr, du côté du Maroc pour suivre un match des étalons. Alors, Jules, cette question relance sans doute le débat des sélections sans stade. Il y a quand même les supporters de ces pays-là qui sont privés de matchs à domicile.
Oui, bien sûr, quand on voit se dérouler ces matchs, mais c'est comme des matchs d'entraînement. Les tribunes sont vides et les spectateurs font partie du football. C'est l'opium des footballeurs. Quand on joue à Dar es Salaam ou au Caire ou au Maroc, quelque part à Casablanca, mais ça chauffe dans les tribunes et c'est un moteur pour les footballeurs. Donc c'est une grande perte pour le spectacle.
Voilà, c'est une grande perte pour le spectacle. Alors, Élisée, dites-nous, est-ce la FIFA ou la CAF qui doit peut-être revoir ses normes de qualité un peu à la baisse, juste en 15 secondes, ou il faut maintenir cette dureté pour amener les États justement à construire les infrastructures très rapidement ?
Elles n'ont pas le choix, hein, ces deux institutions, puisque quand la FIFA homologue quelque part, la CAF dit non. Donc vous imaginez, donc à ce niveau-là, il faudrait que les deux institutions se voient pour pouvoir durcir un peu le règlement.
Merci beaucoup Élisée Mpatin. C'est ici que nous refermons ce numéro d'Esporama. Merci à vous, Jules Valentin Ngwe, Amine Birouk, Amdimsi. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Lionel Gaïma. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.